and gentlemen, now we are.
Il faut arrêter la Formule 1 parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Les moteurs de trottinette ou de tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule, là. Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord?
Est-ce qu'on commence par cette controverse de fin de course, mon Jean-Luc? Un mot sur la fin de ce Grand Prix. Quand même, on va planter le décor et réexpliquer à nos auditeurs ce qu'il s'est passé. Après la sortie de piste de Max Verstappen à 6 tours de la fin, la voiture de sécurité a été évidemment déployée pour pouvoir retirer la Red Bull des graviers dans lesquels elle était. Plusieurs pilotes ont choisi évidemment de passer par les stands en espérant une relance avant la fin de la course pour un, voire potentiellement deux tours. Et puis à la fin du 51e, sur 52, on le rappelle, est apparu un message indiquant « Safety car in this lap », aussi bien du côté de la direction de course que sur les écrans de diffusion et les diffuseurs du monde entier. Tout le monde s'attendait à ce que la voiture de sécurité sorte donc avant la fin et avant le dernier tour.
Avec des retardataires qui étaient déjà passés.
Avec potentiellement des retardataires.
Qui sont passés devant tout le monde.
Exactement. Sauf qu'elle ne s'est pas arrêtée du tout. La course a été neutralisée jusqu'au bout et après coup, la FIA a évoqué un bug logiciel et donc un message qui aurait été envoyé par erreur. Jean-Luc, je sais que tu voulais évidemment réagir sur ça et élargir plus globalement à tout ce qui s'est passé sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne.
Absolument, et même au-delà, mon Kylian, une nouvelle fois, en guise de préambule, je dirais, vous êtes absolument libre de ne pas partager mon opinion, mais je peux vous dire que là, mes opinions, parce qu'il y en a plusieurs, elles vont être tranchées. Alors, âme sensible, eh bien, vous pouvez aller un peu plus loin dans ce podcast. Alors, je commence, puisque ta question porte sur la fin de ce Grand Prix. Écoute, c'est invraisemblable, c'est une accumulation d'erreurs, de gaffes, qui confine au ridicule. Ce qui est grave, c'est que ça hypothèque évidemment les efforts de milliers de personnes, nous l'avons dit, de centaines de milliers de spectateurs. Il y en a eu, je crois, 565 000 au total.
Un record, ouais.
En Grande-Bretagne, un record absolu en Formule 1. Et
depuis Melbourne, dans les années 90.
Voilà. Et puis des millions de téléspectateurs et des observateurs, j'ose dire toujours privilégiés que nous sommes, mais privilégiés, tout le monde l'est aujourd'hui. Hein. Tout le monde peut avoir accès aux mêmes données que les nôtres. Alors là, c'est un pataquès absolument invraisemblable. Jusqu'à quand? Imagine-t-on, on est en pleine Coupe du Monde de football, imagine-t-on un match avec un suspense invraisemblable? Vous les regardez comme moi, on vibre jusqu'au bout, parce que tout peut arriver jusqu'à la dernière seconde. Eh bien, en Formule 1, non. On a trouvé un système, maintenant, où il suffit que, effectivement, alors, bug informatique, on annonce la fin du safety car, et finalement, c'est pas le cas. Mais l'explication est lamentable, grotesque, clownesque presque. À ce niveau de professionnalisme, on en est là. Mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, et vous me voyez venir, c'est la vie des pilotes qui est en jeu là-dedans. Alors, les circonstances, évidemment, peuvent être dramatiques. J'ai vécu, et vous le savez, extrêmement douloureusement, le dernier accident, et je touche du bois en disant ça, mortel en Formule 1, celui de Jules Bianchi, à terme évidemment. J'ai vécu ce pataquès à l'époque, là aussi, de la direction de course lamentable, qui a commis une erreur invraisemblable, alors que jamais ce Grand Prix n'aurait dû se poursuivre. Il aurait dû s'arrêter au tour précédent. Bon, peu importe, ça a coûté malheureusement la vie au pauvre Jules Bianchi, donc on évite ça. Ça, je le comprends très bien. Souci de sécurité. Mais là, on est arrivé à un point. D'abord, si des commissaires sur un circuit comme Silverstone, alors qu'une monoplace est immobilisée dans un bac à sable, il y a des engins pour l'enlever à 15 mètres de là, on n'est pas foutu, permettez-moi le mot, avec 7-8 minutes de dégager cet engin. Mais c'est insensé. Alors, si on n'est pas foutu de le faire, et ça peut être le cas sur d'autres circuits, parce que, et je rends toujours hommage au commissaire, il doit y avoir des raisons, bah dans ce cas-là, c'est à la direction de course de prendre les mesures, c'est-à-dire qu'on arrête la course au drapeau rouge et on redonne un départ pour deux tours, pour trois tours, mais on n'arrive pas sous neutralisation. Charles l'a dit, cette victoire, la 9e, bah oui, elle est magnifique parce que c'est un retour aux sources, mais elle est gâchée par la manière dont ça s'est terminé à cause de la FIA, à cause de la direction de course. Et que dire des spectateurs? On attend le restart, on nous l'annonce en plus, on nous dit, attention, hein, il va y avoir un dernier tour, et tout le monde le dit, oula, Charles dit, je ne sais pas si je vais résister, on a arrêté évidemment Lewis Hamilton pour ça, etc. Et finalement, bah, ça fait pchit, il ne se passe rien. C'est lamentable, c'est honteux, c'est scandaleux, je n'ai pas de mots assez forts, et il y en aura d'autres. Mais pourquoi ne change-t-on pas les règlements? Ou pourquoi la direction de course ne prend-elle pas d'autres mesures? Parce que ce sont des incapables et des incompétents. Voilà pour cette partie, mon Kylian.
Arnaud.
Moi, je trouve, non mais je souscris tout à fait aux propos de Jean-Luc, on ne peut pas voler des moments de sport comme ça. Imaginez Alors évidemment, on fait tous référence à Abu Dhabi 2021 avec le titre de Max Verstappen. Imagine, on serait arrivé avec ce même bug informatique et puis là, Lewis Hamilton champion, ah, ça aurait fait moins couler d'encre. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi on pourrait pas dire, alors soit effectivement la solution, comme dit Jean-Luc, on fait drapeau rouge et on repart, ou ben soit voilà. On est à 10
ils
tours
ont le
de
pouvoir
la...
de le faire.
Soit on est par exemple à 10 tours de la fin, tu calcules, ben on se dit à ce moment-là, on est sous régime de voiture de sécurité, mais on gèle le nombre de tours.
Exactement.
On gèle le nombre de tours et au moment
comme
de l'accident.
Football, du temps additionnel, ouais, et là, on ferait des tours additionnels, pourquoi
au
pas.
Au moment de la sortie de Verstappen dans Stowe, il devait rester 5-6 tours.
5-6 tours de la fin. Tours. Voilà. 5-6 tours.
Et bah, on gèle parce qu'on est très proche de l'arrivée.
Bien sûr.
Tout le monde
bien
est
sûr.
Au courant. On et continue à faire des tours parce que on veut faire plutôt un départ lancé qu'un départ arrêté. Et là, ça a pu permettre des changements de pneumatiques pour tout le monde.
Et tu relances
avec le
pour
pari
5,
de Russell ou pas. Et une fois qu'il y a safety car ending, au moment de repartir, et ben là, on redéclenche les tours. Je comprends que, par exemple, à 20 tours sur 60, on le fasse pas. Mais tu peux très bien déterminer en amont, on est à 25%, s'il reste 20%
voilà.
De la course,
on établit
15%, je pense qu'à 15%, tu peux faire des tours à 140, tu ne vas pas cramer le carburant, parce que tu as cette notion-là aussi. Mais je pense qu'effectivement, dans des conditions comme ça...
Oui, mais tu l'inclus dans le règlement, Arnaud.
Oui.
Tu dis, dans ce cas-là, le règlement et l'autonomie doit être de 5 tours supérieurs à la distance de
voilà,
la course. C'est
exactement.
Tout, pour tout le monde. Ce n'est pas compliqué.
Voilà. Et là, je pense qu'on ne peut pas... Nous, on a vu des Grands Prix, Jean-Luc évidemment plus, mais je me mets à la place du nouveau téléspectateur que la F1 et que Liberty ont réussi à convaincre, et il faut s'en réjouir que la F1 soit de plus en plus populaire. Tu proposes ça, Jean-Luc qui est à Miami, mais au consommateur américain, il dit mais « Are you fucking killing me, quoi ?» C'est quoi ce truc
c'est
t'as pas le droit
ça,
à ta fin alors que t'aurais pu avoir justement une fin... incroyable avec des dépassements, c'est la folie, c'est l'urgence, les pneumatiques neufs chez la majorité des pilotes. Et moi, j'étais là, je me dis, ils vont pas nous gâcher la fin du Grand Prix, ils vont pas nous saboter ça. Et bah si.
Mais Jean-Luc, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de continuité? Est-ce que c'est pas au final la résultante de quelque chose qui est beaucoup plus global? Je pense notamment, tu as évoqué un mot dans ta première intervention qui était clownesque. Juste pour revenir sur l'ambiance globale de ce Grand Prix, évidemment, ils ont décidé de faire cette parade des
en
pilotes
Lego, ouais.
En Lego.
Oh.
Ça, bon, moi
c'est marrant une fois.
Moi,
quoi.
Non, mais j'adhère parce que fan de Lego et j'en passe.
Oui,
je trouve ça extrêmement
tu joues
marrant.
Chez toi avec tes
mais
petits enfants,
autant,
c'est pas pareil.
Pour autant,
c'est...
ce qui est clownesque, c'est la présence de notre ami Mohamed Ben Sulayem qui a fait cette course de cartes avec les pilotes. Mais je t'en prie.
C'est quand même le Gianni Infantino de la F1, c'est les deux mêmes.
Moi, quand tu as évoqué le mot clownesque, j'ai eu cette image-là tout de suite en tête. Est-ce qu'on n'est pas vraiment sur un épisode de plus dans quelque chose qui est extrêmement difficile et douloureux cette année?
Bon, alors. Puisqu'on aborde, j'avais prévu de le faire en troisième et en dernier, parce que c'est bien ce qui mérite d'être dernier, ce personnage ridicule, grotesque, clownesque, tu l'as dit. Bon, écoute, on avait déjà les prémices, hein. Là je vais être très dur et je vais être à la limite de la diffamation évidemment, mais je vais y aller carrément. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir à la FIA, là aussi, on l'a élu, je ne sais pas dans quelles conditions et je ne veux même pas le savoir, parce que la FIA n'est pas la seule à recourir à ce qu'on appelle des magouilles, on achète des voix, puisque la voix du clownistan a le même poids que la voix de la Grande-Bretagne, des États-Unis ou de l'Allemagne. Enfin, bon, peu importe, une voix, c'est une voix, et on sait à quel système on recourt pour être élu. Il a été élu, ok. Et il a commencé à faire le ménage, puisque ceux qu'il n'a pas virés, de manière honteuse, scandaleuse, des gens très compétents qui étaient là depuis longtemps, qui faisaient leur boulot. Alors, on a le droit de changer, de mettre en place sa propre équipe. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas ça le critère. Le critère, c'est qu'il fallait courtiser le souverain, puisque c'est un nouveau souverain qu'on a mis en place. Et la suite nous a démontré qu'on avait raison, puisque, il a fait en sorte de pouvoir être réélu, vous le savez, au-delà d'une troisième fois. On a modifié les statuts de la FIA pour permettre à monsieur, comment il s'appelle ? Ah oui, Ben Sulayem, c'est ça, de pouvoir être réélu à vie. Donc c'est un dictateur à vie. Ensuite, et dans l'ordre, j'aurais dû commencer par là, il a fait en sorte qu'aucun concurrent ne puisse se présenter aux élections, puisque lui-même, il a modifié ce qui permet d'être élu, puisqu'il faut présenter des vice-présidents, vous le savez, de tous les continents, et qu'il avait verrouillé la situation. Personne n'était en mesure de se présenter contre lui. Mais vous appelez pas ça de la dictature, vous ? Enfin, c'est absolument incroyable. Après, ce personnage, là aussi, est tellement imbu de lui-même que... Mais de quel droit ? Mais j'allais citer... Hein, on a parlé en son temps de Jean-Marie Balestre, mais c'était un nain à côté, en terme de décision à l'emporte-pièce, etc., et complètement invraisemblable. On a parlé de Max Mosley, qui était, vous le savez, qui était, bon, le j'allais dire cul et chemise, parce que l'expression, avec Bernie Ecclestone. Bref, passons.
Jean Todt.
Oui, bah, je préfère pas en parler. Donc, il y a eu tout un tas de règnes, entre guillemets, avec tout un tas de choses... personnellement sur lesquels je préfère ne pas revenir, mais là, on assiste à quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a mis la main sur une fédération, qui a modifié les règlements et les conditions pour être président à vie, je dis bien à vie, puisque le dernier écueil qui restait, c'était la limite d'âge à 70 ans, je crois. Lui doit en avoir 65 ou 66.
Bon, il va la faire tomber.
Il est en train de la faire sauter. Donc, il est président à vie, vous m'entendez, parce que personne ne pourra plus jamais être élu à sa place. Mais c'est insensé, ça. C'est quand même... C'est la définition même de la dictature. Bon, vous me voyez venir aussi. Quand vous voyez les pays dans lesquels se balade, maintenant, j'ose dire, la Formule 1, bah, il n'y a pas de surprise. Hein, parce que je sais bien que là aussi, le sport, on va rester là-dessus. C'est le cas du foot, c'est le cas des Jeux Olympiques.
Enfin,
oui, non, mais des scandales, il y en a partout. Mais moi, mon sport, c'est le sport automobile, c'est la Formule 1. Et je le défendrai, je le dis tout le temps, jusqu'au bout. Et je ne me drape pas ni dans ma carte de presse, ni dans ma dignité. Mais je pense qu'on est quelques-uns à avoir vécu d'autres moments. Et non, ce n'était pas toujours comme ça. Non, ce n'était pas toujours pareil. On arrive à un point pour... en finir avec ce personnage, en finir dans mes propos, parce que c'est aussi, je ne vais plus en parler, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. Je vais faire référence là aussi à quelques personnes, Jean-Michel Larquet en football, vous l'entendez souvent tenir des propos du même genre, évidemment Roland Courbis, mon pauvre Roland si tu m'entends, Patrick Tambay, enfin je vais arrêter, je dis simplement ce que je suis encore en mesure de dire, puisqu'on me permet, merci aux dirigeants d'RMC, de toujours nous exprimer. Après, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, je ne le conteste pas. Mais moi, j'avance des arguments. Voilà pour ce sinistre personnage.
Après, si on a le retour des V8 grâce à lui, on dira un petit mot positif quand même, Jean-Luc.
Mais Arnaud, mais là aussi, je le répète tout le temps, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. On est d'accord,
oui.
Il a senti le vent tourner parce qu'il est malin, cet oiseau-là, en plus de tout le reste. Il est malin, il a compris que c'était un échec cuisant. Et mon dernier point, c'est le règlement. Mon Kylian, je sais que ça va être long. Hein.
Je t'en prie,
mais
rapidement,
je vais
comme
la faire
ça,
bref,
après,
et puis j'en parlerai plus.
Et on oublie tout ça, tu as raison.
Je vais faire comme Verstappen, je n'en parlerai plus de ce putain de règlement, parce qu'il n'y a pas d'autre à dire. Ce règlement, il l'a pondu, Bin Sulayem, avec ses sbires, j'allais dire, avec ses complices. On nous l'a vendu, on nous l'a survendu. Depuis 2022, on nous a dit « Ah, oh, ça va être formidable, vous allez voir. » Là, maintenant, alors la Formule 1, là, c'est une autre ère qui débute, etc. On nous l'a survendu. Et puis, bah, moi, j'étais absolument pas convaincu, pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Moi, c'est pas très important. Ce qui est le plus important sont les ingénieurs qui conçoivent les voitures et sont les pilotes. Et les pilotes, quand ils ont été en mesure, avec les fameux simulateurs, de voir à quoi allait ressembler la Formule 1 de 2026, ils ont dit « Ouh là 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 là, attention !» Mais je vous le répète, comme on est dans une dictature, ben dans une dictature, on n'a pas le droit de parler. Les pilotes signent des contrats avec leur écurie qui leur interdit de critiquer leur écurie. Ça commence comme ça. Et ils signent des contrats avec la FIA pour avoir la fameuse super licence. On leur interdit de critiquer la FIA, la Formule 1 et les règlements. Ben donc, évidemment. Alors certains, ils s'appellent Fernando Alonso et ils s'appellent Max Verstappen, essentiellement, ont osé l'ouvrir parce que, j'allais dire, ils n'en ont plus rien à foutre. Voilà. Et ils ont leur liberté de penser et leur liberté de parole. Et ça, ils ne l'enlèveront jamais tant qu'ils seront là. Parce que les deux, ils vont s'arrêter. On a bien compris que c'était un point tel que Verstappen était écœuré par tout ça. Parce que ce que nous avons cité jusque-là, et je vous dis, c'est tellement long que... Après, je ne veux plus en parler. Les départs, comment c'est... Ah bah là, ils sont bien partis. Ah bah là, ils sont mal. Les pilotes ne savent pas. Mais écoutez, Isaac Hadjar vous dit, on a une procédure à suivre. On la suit scrupuleusement. Des fois, on prend un départ normal. Et d'autres fois, je perds 4 places. Il l'a redit encore en Autriche, je ne sais pas pourquoi. Même chose pour Antonelli. Les Mercedes, elles partaient pas trop bien. Bon, on a modifié des choses, etc. Ça partait mieux, bah là, non, ça y est, c'est reparti, c'est le cas de le dire dans le mauvais sens. Mais comment vous appelez un règlement, vous, qui induit le fait que personne, je dis bien, ni les ingénieurs, ni les pilotes, ne sait pourquoi les choses arrivent. Pourquoi une voiture est performante sur un circuit, pourquoi elle ne l'est pas sur l'autre. Pourquoi dans le même week-end, on est perdu le vendredi et on est super bien le dimanche. Et à l'inverse, ça on peut comprendre, à l'inverse, eh bien, on est très bon le vendredi dans les mêmes conditions et le dimanche ça marche plus du tout. Mais écoutez, c'est un règlement de merde. Je suis désolé, là je suis grossier, c'est un règlement lamentable. Et la preuve en est, et ça va être mon dernier argument, c'est qu'on est en train de rétro-pédaler, puisqu'on a pris des mesurettes cette année pour limiter les conséquences de cette histoire d'ingurgitation, je préfère utiliser des gros mots comme ça, des mots médicaux, ingurgitation électrique, d'accord, qui vient bouffer de la puissance, et régurgitation, parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors on parle de déploiement pudiquement, mais c'est quoi le déploiement? C'est le fait, pour les batteries, de pouvoir rendre la puissance qu'elles ont emmagasinée, on est bien d'accord, au moment où les pilotes en auraient besoin. Mais comment c'est possible en IndyCar? Je suis également l'IndyCar de très près. Comment c'est possible en IndyCar d'avoir un push-to-pass, vous le savez, qui rajoute 60 chevaux parce qu'on n'agit que sur le turbo? C'est-à-dire qu'on met une surpression au turbo, on délivre 60 chevaux et le pilote, il gère comme il veut. Il a un quota de secondes pendant la course et ça nous donne des courses fantastiques comme celle qui a eu lieu à Road America hier. Voilà, je l'ai dit et ce règlement est un règlement stupide, lamentable et j'en termine. Le dernier argument, on va revenir encore plus dessus en 2027 et en 2028. C'est bien pour vous dire que c'est de la merde. Et tu parlais des V8, Arnaud. Bah oui, vivement qu'on en revienne aux moteurs thermiques. Je croise les doigts tous les jours.